crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous regardons une œuvre de l'artiste Francis Bacon, une petite huile sur toile de 34 cm par 29. Et c'est le portrait qu'il fit de Michel Léris en 1976 et qui appartient à la collection du Centre Pompidou à Paris. Michel Léris, poète, écrivain, autobiographe, ethnologue de métier, le célèbre auteur de l'Afrique fantôme, admirateur perspicace et fervent de l'œuvre de Bacon dont il saisira l'un des premiers, l'importance unique dans l'art de son temps, mais aussi la marginalité. Quand je dis l'un des premiers, c'est l'un des premiers en France. Il suivra avec conviction l'aventure de cette peinture, dont il fut l'un des magnifiques commentateurs, il y en a eu d'autres évidemment, comme Deleuze évidemment, et l'un des rares dont les interprétations sont acceptées par le peintre devenu son ami. Dans les années 70, Bacon à Paris rendra souvent visite à Michel Léris. De nombreux écrits de celui-ci font forte impression sur l'artiste, et notamment « Miroir de la tauromachie », le tout premier livre que son ami lui est envoyé, où il retrouve sans doute une conjonction similaire de violence et de sentiment. Dans les textes que Léris a écrits à propos de Bacon, il insiste sur une notion centrale, celle de la présence que ses œuvres imposent à celui qui les regarde, pas seulement la présence de l'œuvre, mais la présence du regardeur lui-même. Si pour Bacon le visage de Léris est émouvant, pour Léris, la figure de Bacon révèle une tendre détresse d'homme qui traduit la vie en intensité. Ainsi, le peintre et l'écrivain ont-ils trouvé chacun dans l'autre la rencontre révélatrice qui alimentera leur vie comme leur art. Michel Léris, donc, notre regardeur.
Assurément, il y a, pour celui qui veut faire un vrai portrait, conflit entre ces deux nécessités. Suggérer, d'une part, des traits particuliers, hasardeux, qui relèvent de l'anecdote, créer, d'autre part, une œuvre douée d'une sorte d'existence en soi et située de ce fait sur un plan tout autre que celui du pittoresque historiographique. C'est peut-être parce que le conflit entre exactitude documentaire et vérité picturale atteint son comble dans le cas du portrait que, chez Bacon portraitiste, l'art de peindre, qui semble ne pouvoir pour lui s'accommoder que de la haute tension, se trouve chauffé jusqu'à l'incandescence. Mais de froids aperçus concernant l'art du portrait peuvent-ils expliquer le tumulte dans lequel les traits de ces personnages ressemblant jusqu'à l'os semblent avoir été entraînés? Tempête, éruption, séisme, que la méditation du peintre sur ce qu'est un portrait n'aurait pas suffi à déclencher et dont on admet difficilement, bien que nos yeux l'attestent, qu'un équilibre ait pu en résulter. Essayer de transcrire une présence vivante et de la transcrire comme telle, sans laisser échapper cette vie qui lui est essentielle, c'est chercher à la fixer sans la fixer. S'efforcer, paradoxalement, de fixer ce qui ne peut pas et de ne doit même pas être fixé, car le fixer, c'est le tuer. Aussi, l'œuvre répondant à ce propos ne peut-elle, pour aboutie qu'elle soit, que revêtir une allure jaillissante ou hagarde d'esquisse. L'artiste, au demeurant, la traitant non comme une œuvre qu'il pourrait un jour tenir pour plus qu'un essai, une œuvre finie, réussie, achevée, et qui maintenant figée est passée de l'autre côté de la vie, mais comme l'objet d'une entreprise toujours à recommencer, à reprendre sur des bases point nécessairement différentes et dont chaque reprise constituera une aventure nouvelle. Il s'agit ici moins de perfectionner que de tenter encore sa chance. Et c'est ainsi, me semble-t-il, que Bacon, de sa manière à la fois emportée et contrôlée, peindra plusieurs fois sans que tombe sa fureur lucide une même personne amie ou fera surgir ces Van Gogh que l'on croirait nés d'une rencontre plutôt que rejoints par-dessus le fossé du temps. Michel Léris, ce que m'ont dit les peintures de Francis Bacon.
Pour commenter cette œuvre de Francis Bacon, je reçois l'artiste Kader Attia. Bonjour Kader, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, et vous ?
Vous arrivez de Chicago ?
Voilà, absolument.
Alors, pour que nos auditeurs vous connaissent un petit peu mieux, je pourrais dire que vous me corrigerez sans doute, ou vous préciserez, vous utilisez différents médiums pour parvenir à exprimer votre œuvre. C'est souvent une œuvre qui analyse des contextes sociaux, contextes historiques, qui relie notre histoire à celle de la colonisation, par exemple, mais pas seulement, et aussi qui a une portée poétique et souvent critique, qui est très perturbante et qui fait autant partie de ce qui reconstruit que de ce qui critique. Il y a une violence dans votre travail qui nous intéresse et il y a un intérêt effectivement pour la relation entre les cultures qui fait que vous allez montrer une œuvre au sein de l'exposition consacrée à Michel Léris au Centre Pompidou-Metz qui va ouvrir en avril, une exposition qui est orchestrée par notre deuxième invitée, Madame Bernadac. Marie-Laure, comment allez-vous, Marie-Laure ?
Bonjour, très bien.
Marie-Laure Bernadac, nous nous connaissons depuis quelques années. Vous étiez alors conservateur en chef au Centre Pompidou, particulièrement concentré sur le cabinet des dessins. Vous êtes ensuite devenu conservateur en chef au Musée Picasso. Vous avez réalisé des expositions immortelles, je pense à Picasso et les Maîtres en 2008, par exemple. Mais vous aviez auparavant fait une exposition au Centre Pompidou qui, elle aussi, est immortelle, qui s'appelait Féminin Masculin, et que vous aviez réalisé avec l'excellent Bernard Marcadet. C'était en 2005 et vous préparez un livre maintenant sur Louise Bourgeois, mais surtout dans quelques heures, avec votre co-commissaire Agnès de la Baumelle, vous allez ouvrir cette exposition qui se trouvera au Centre Pompidou-Metz, qui aura lieu du 3 avril au 14 septembre et dont le titre est quoi ?
Léris & Co.
Ça veut dire qu'il y a du monde et parmi le monde qu'il y aura, il y a peut-être Francis Bacon.
Il y a Francis Bacon, bien sûr.
Qui est notre sujet aujourd'hui. Regardons donc de près ce tableau de Francis Bacon, qui est un portrait de Michel Léris. Regardons-le de près, car ce portrait est au format d'une boîte à insectes, et il met le regardeur dans l'obligation de se pencher sur cette présence qu'il examine comme un entomologiste pourrait le faire. La taille du visage est environ celle d'un masque, ce qui est assez intéressant par rapport à celui qu'il observa et en rassembla de nombreux pour le musée de l'homme. C'est-à-dire que c'est plus une apparition qu'une apparence. Pris dans l'obscurité qui le baigne, le buste de Michel Léris, malmené par les aberrations d'une géométrie optique, surgit. La partie droite s'élargit, comme si on avait approché une loupe de l'œil. L'ovale du crâne est éclairé et surmonte le visage comme le dôme d'un monument. Symétriquement, les deux oreilles de celui qui a écouté les récits de nombreuses sociétés d'hommes sont ourlées de blanc. La bouche est écrasée à droite, comme pressée contre une glace, et elle n'existe même plus à gauche. Un grand vecteur blanc part du milieu du front jusqu'à l'arête du nez. Un cercle vert lacunaire s'étale sur les abords du visage, qui surmonte un habit occidental conventionnel, veste grise et col blanc. Dans ce portrait, Francis Bacon parvient à défaire le visage pour que la tête apparaisse, criant de vérité, vrai jusqu'à l'os comme on l'entendait le dire tout à l'heure, et qui peut-être correspond à ce que l'artiste disait de ses peintures. Il disait « Je voudrais qu'elle donne l'impression qu'un être humain est passé au travers comme une limace, et que comme une limace laisse des traces de sa bave, il laisse trace de la présence humaine et des événements passés. »
J'espère toujours déformer les gens dans le sens de leur apparence. Je ne peux pas les peindre littéralement. Par exemple, je pense que des deux portraits que j'ai faits de Michel Léris, celui qui est le moins littéralement lui est en réalité celui qui lui ressemble de la manière la plus poignante. Ce qu'il y a de curieux à propos de ce portrait-là de Michel, c'est qu'il est le plus ressemblant et que, cependant, si vous pensez à la tête de Michel, elle est plutôt ronde, en fait, et celle-ci est longue et étroite. Si bien qu'on ne peut pas savoir ce qui fait paraître une chose plus réelle qu'une autre. Je tenais vraiment à ce que ces portraits de Michel lui ressemblent. Ça ne rime à rien de faire le portrait de quelqu'un s'il ne lui est pas ressemblant. Mais parce qu'elle est plutôt longue et mince, cette tête-là n'a en réalité rien à voir avec la tête de Michel. Et quand même, c'est celle qui lui ressemble le plus. Du moins, je pense que c'est la plus ressemblante. Mais cela reste l'une des choses qu'en peinture, il est franchement impossible d'expliquer. Et je voudrais faire en sorte que mes peintures soient de plus en plus artificielles, de plus en plus déformées, comme on dit. Oui, certainement, de plus en plus artificielles. Francis Bacon, Propos recueillis par David Sylvester, 1996.
Kaderatia, il y a dans votre travail souvent une attention portée au visage, à la tête, à la cicatrice, à la brisure. Est-ce que quelque chose vous retient quand vous regardez ce travail de Francis Bacon, ce portrait de Michel Léris de 1976 ?
Oui, absolument. Même l'ensemble de l'œuvre de Bacon. Mais ce qui est très intéressant dans le cas de ce portrait et dans le fait qu'il soit inclus dans cette exposition, c'est que comme... vous l'aviez mentionné tout à l'heure, il est peint à l'échelle d'un masque. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que déjà Picasso a cette transition. Picasso se peint son portrait comme il se peint en masque. Je crois que là, il se passe quelque chose de très... bien sûr, de plastiquement lié à la blessure, lié à, je dirais, la complexité de la réparation, qui est une incarnation de la blessure. Je dis toujours que la réparation est un oxymore, en fait. Elle incarne, elle porte en elle sa complémentarité qui est la blessure. Mais encore une fois, ce que je trouve intéressant dans cette histoire et dans ce dont on va parler à propos de Léris, c'est qu'il le peint vraiment à l'échelle d'un masque, et qui plus est, avec cette esthétique, cette rythmique, ce parallélisme asymétrique.
Oui, il y a des rimes plastiques entre les arcs de cercle qui composent le visage.
Qui nous rappelle l'Afrique fantôme, qui nous rappelle cette histoire.
Marie-Laure, vous partagez ce point de vue ?
Oui, tout à fait. Et ce qui est très étonnant, si je peux me permettre aussi de citer un texte, c'est ce que Léris essaie de dire de ce portrait. Parce qu'évidemment, c'est le signe de leur amitié. Vous avez dit que c'est forcément un cadeau de Bacon donc à Léris. Et donc, en retour, il essaie de peindre avec des mots ce portrait. Donc, il se décrit le visage imberbe, à la fois poupin et tourmenté, l'opiniâtreté intelligente et... allié à je ne sais quelle fureur secrète, une tendre détresse d'homme qui n'ignore pas qu'il fut jadis un enfant, qu'à peu près n'importe quoi pouvait émerveiller. Et il finit, voisinage revigorant, parce que ce tableau était en face de lui à Saint-Hilaire au moment de sa mort. Donc c'est vraiment aussi un masque, c'est aussi une espèce d'image de sa propre mort qui est peinte par Bacon. Donc Léris dit, voisinage revigorant et appel au travail, un visage qui pèse tout son poids de viande et tout son poids de peinture. Et là, je crois qu'au-delà de l'idée du masque, qui bien sûr évoque l'Afrique fantôme, le rapport de Léris à l'ethnographie et au masque, il y a la chair et le sang. Il y a la chair et le sang, et ça, c'est très très important.
Comment est-ce que vous interprétez, Marie-Laure Bernadac, cette façon qu'a souvent Léris d'insister, et d'ailleurs Deleuze est revenu là-dessus dans son texte très beau sur Francis Bacon, sur le passage d'un visage à une tête. C'est-à-dire, c'est comme si on dépassait l'humanité pour arriver presque à l'animalité qui est en nous.
C'est ce qui intéresse en tout cas les riches chez Bacon, c'est l'animalité. Il y a beaucoup de parallèles. Alors, lui, ce qui intéresse vraiment les riches, vous l'avez dit, enfin, ça a été dit dans le texte, l'appel à présence, saisi sur le vice, le sang, la chair. Il y a toujours
c'est joli
cette
votre
idée...
lapsus, hein, saisi sur le vice.
Le vif, où il y a l'érotisme aussi, la violence. Merci, pardon d'avoir relevé.
Non, mais je trouve que c'est important, parce que ce qui m'a frappé dans l'extrait que vous avez cité, c'est la volonté de Léris d'être tellement sincère par rapport à lui-même. C'est-à-dire cette idée de réalisme. Qu'est-ce que ça voudrait dire, le réalisme d'un portrait comme ça ? Est-ce que c'est un réalisme ?
Alors, Léris est obsédé du réalisme. On sait que dans tous les peintres qu'il aime, il met en dehors tout ce qui est abstrait. Ça ne l'intéresse pas. Donc, il y a une espèce de panthéon et de constellation d'artistes, dont Bacon, comme vous l'avez rappelé, est le dernier, mais qui commence avec Masson, ensuite Picasso, qui est peut-être, à mon avis, mais peut-être que je suis un peu partial, le plus important, c'est celui sur lequel il écrit le plus de textes. Parce que Picasso réunit à la fois du Bacon, du Miro, du Masson, du Lame, finalement, du Giacometti. Picasso représente un peu tous les artistes que Léris aime. Et il y a dans cette constellation, il y a beaucoup d'éléments intéressants. Et dans tous les textes, il insiste sur le réel, la figure humaine, l'humain trop humain, la présence. Alors là aussi, c'est peut-être une volonté d'écrivain de jalousie ou d'impuissance, comme lui-même dans sa poésie, sa littérature, essaie de saisir le réel, de saisir, de se connaître lui, de connaître l'autre, d'être toujours dans cette quête de vérité. Il se dit souvent que finalement, la présence de la peinture incarnée, la chair de la peinture, la matérialité de la peinture, arrive à dire bouche cousue ce que les mots maladroits n'arrivent pas à faire. Donc il faut toujours penser à ce rapport peinture-écriture pour lui, la peinture dit plus, elle est plus puissante dans sa l'évocation de la réalité que la littérature et les mots.
Bouche cousue, cette expression me fait penser à beaucoup de vos travaux et de regards que vous avez portés, Kader Attia, sur la blessure. De quoi est blessé un visage que l'on voit comme celui de l'iris peint par Bacon? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste d'ailleurs de parler de cela?
Peut-être pas en fait, c'est ça la question. C'est que moi je crois que je regardais à l'instant la date 1976 et pourtant c'est un portrait qui me rappelle les gueules cassées en fait, inévitablement.
C'est pour ça que je pensais aux gueules de cousues.
Et à la fois j'écoutais Marie-Laure dans cette histoire, donc lorsqu'elle évoque la viande. C'est une notion, on le sait bien, chez Bacon, qui est vraiment fondamentale, qui revient tout le temps. Et alors, avec le cercle que formaient Masson, Léris, etc., Montparnasse, j'ai eu tout de suite comme ça l'image de Chaïm Soutine, en fait, pour la question de la peinture qui devient ce terrain où l'on creuse la viande, se souvient de ses côtes de bœuf et de ses portraits extraordinaires. Et en fait, en faisant le pont comme ça entre...
Vous avez raison, son Rembrandt, Soutine, Bacon, c'est de la viande est centrale.
Absolument, ouais. Absolument. Et je sais bien que j'habite à Berlin, en Allemagne, Autodix et Gross, juste après la Première Guerre mondiale, vont vraiment s'intéresser, là pour le coup, aux gueules cassées. Avec peut-être peut-être moins cet aspect lié justement à la chair. Mais moi, je crois que cet aspect de la chair, on le voit dans ce portrait, il a aussi, si je puis me permettre, une dimension psychanalytique en fait. C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'il va essayer d'aller chercher de l'intérieur, enfin le lyrisme de l'intérieur en fait. C'est ce que je ressens.
Marie-Laure
Bernadac. C'est exactement ce que Léris a vu. C'est pour ça que, bon, bien sûr, formellement, on pourrait parler dans cette déformation de gueule cassée ou de blessure, mais je pense pas. Je pense que ces déformations sont plastiques. C'est une intensité expressive qui dit l'essentiel, en effet, de j'allais pas dire l'âme de Léris, mais de sa personnalité, de ce qu'il est, de enfant jusqu'à sa mort, quoi. C'est une espèce de l'homme. C'est vraiment l'âge d'homme. C'est l'âge d'homme que Léris n'a jamais atteint, mais dont Bacon lui renvoie un portrait. Alors, c'est intéressant aussi. Puisqu'on parle de portraits, de déformations, les deux grands portraitistes du XXe siècle, c'est Picasso et Bacon.
Picasso a fait aussi un lyrisme, n'est-ce pas, Marie-Laure?
Qui est beaucoup plus elliptique, qui n'est qu'un trait au dessin. Je pense qu'il n'a pas osé peut-être le peindre vraiment, parce qu'il peignait plutôt ses femmes, hein, d'une certaine façon. On a beaucoup plus de portraits de femmes que de portraits d'hommes, mais quand il y a des portraits d'hommes, c'est des matadors, des hommes déguisés, etc. Donc il a fait une série de portraits dans les années 80, oui, donc juste après, qui sont juste un trait, où on voit un lyrisme assez enfantin aussi, donc... Curieusement, les deux l'ont représenté un peu comme un enfant, ce qui correspondait un peu à son physique, hein, quand même. C'est un homme petit, très timide.
On a quand même l'impression que Bacon fouille plus que Picasso ne l'a fait, l'humain, l'humanité de
l'héritage. Beaucoup plus loin, ce portrait est beaucoup plus important. Les portraits de Picasso ne sont pas intéressants du tout, curieusement. Enfin, ils ne sont pas très
intéressants. N'exagérez pas, quand même.
N'exagérez pas. À part cette subtilité, cette virtuosité du trait, ils ne nous apprennent pas grand-chose sur Picasso.
Alors, je vous propose d'écouter à présent une des lettres que Michel Léris écrit à Bacon en 82. Puis on entendra la voix de Jean Frémont, l'auteur de Michel Léris face à lui-même, interviewé par Alain Weinstein.
Paris, le 3 avril 1982. Cher Francis, je réfléchis toujours sur le réalisme à propos de vos œuvres, mais cela décidément piétine. Je me suis remis à faire des jeux de mots poétiques, comme à la vieille époque surréaliste, et voici comment j'interprète, de façon forcément sibylline, le mot réalisme. Réalisme, misère, rat, et aller à l'âme. L'art même, ici même. Ce que je retiens finalement du réalisme, c'est donc moins la conformité à la réalité extérieure que le désir subjectif d'aboutir, sans inflation, à quelque chose qui aura pour le moins autant de poids qu'une réalité. Excusez mon obscurité, j'espère que petit à petit cela s'éclaircira. Merci pour le très bel envoi qui me vient de Barcelone. Et ma grande affection, Michel Léris.
Déjà chez Giacometti et de manière exemplaire chez Francis Bacon, on a affaire à quelqu'un qui touche le nœud, le centre, le sang. Hein. C'est immédiatement évident et c'est ce que Michel Léris ne cesse de dire à propos de Bacon. Au fond, si on relit ses textes sur Bacon, il ne parle à peu près que de ça. Hein. la vérité criante. Voilà. C'est cette chose dont la vertu principale est d'exister sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on sache comment, sans que ça ait un sens, sans que ça ait un but. Bacon n'explique rien, ne démontre rien, ne cherche pas. On n'a même plus à se demander si c'est beau ou pas beau, ça n'a aucune importance. Ça existe, vous l'avez devant vous, vous le prenez dans la figure, dans le ventre. et c'est comme ça. Et je suis certain que Léris ne se trompe, premièrement ne se trompe pas, et deuxièmement ne fait pas que se projeter en disant cela à propos de Bacon. Ne fait pas que projeter ses propres hantises. Il est évident que c'est ce que cherchait Bacon. Bacon explique, par exemple dans ses entretiens avec David Sylvester, que c'est quelqu'un qui a toujours été bombardé d'images. Il recevait des images de tableaux, comme ça. Il n'avait plus qu'à les faire. Et puis il explique qu'en les faisant, il cherchait très consciemment à, par tout moyen, renforcer le caractère poignant de ces tableaux, les rendre les plus évidents, les plus forts, les plus poignants possibles. Et c'est ça qui frappe, Léris.
Kaderatia, nous regardons ensemble sur France Culture, dans Les Regardeurs, ce portrait de Michel Léris par Francis Bacon. Et on vient d'entendre parler de cette expression très forte. Et je me demande ce que ça veut dire pour un artiste aujourd'hui, et si vous adhérez à cela, la vérité criante. Quelle est l'importance de rechercher, est-ce que vous adhérez à cette idée, rechercher la vérité criante? Parce que vous êtes engagé, vous aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous?
Je pense que ce qui est très important, c'est de, encore une fois, recontextualiser l'œuvre. Et pour moi, il y a vraiment une période, enfin pour tout le monde et pour la modernité, il y a une période vraiment fondamentale qui est l'Holocauste et Hiroshima. C'est-à-dire que le rapport au corps va changer à partir de ce moment dans l'histoire humaine, en fait.
Alors juste pour que nos auditeurs le sachent, en 1939, Francis Bacon avait 30 ans. Il était en plein dedans, voilà.
Il était en plein dedans. Le rapport au corps va changer. Le rapport, l'installation va naître de ça. Le bouteau va naître de ça. Le rapport au corps dans l'art, pour les artistes et pour les historiens, va devenir l'élément central. Et je trouve que c'est aussi la chose qui me paraît passionnante avec ce portrait, c'est que c'est un portrait de son temps, en fait. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment à un moment où, quand on demandait à Primo Levi d'expliquer ce qu'il s'est passé, il disait « je voudrais parler d'autre chose ». Je crois qu'il y a une interview de radio où il disait « je n'ai rien à dire là-dessus, car l'expliquer, ça veut dire que je le comprends, or je le comprends pas ». Et il y a, dans ce portrait, une sorte d'excavation de l'incompréhension, enfin d'excavation qui mène à une incompréhension. Finalement, ce portrait, c'est aussi un miroir de Bacon. Mais c'est pas de Bacon l'individu, mais de l'artiste qui regarde. Qui regarde où est-ce qu'on en est, et qui est, encore une fois, 76, dans cette période de la postmodernité naissante, d'une transition qui correspond en fait à la période que je citais avant et la période à laquelle on vit aujourd'hui.
Marie-Laure Bernadac, vous voulez réagir?
C'est très important que vous ayez parlé de l'engagement qu'on voit Bacon aussi, et c'est ce qui plaît beaucoup à Léris. C'est cette espèce d'engagement total du combat du peintre pour saisir la chose, pour saisir le réel, pour saisir son modèle. C'est qu'il y a toujours à la fois le peintre et son modèle, et lui-même est dedans. Bien sûr, il y a du Bacon dans ce portrait de Léris. Et ça, Léris le dit, cet engagement personnel, cette lutte, ce combat, cette souffrance même de l'artiste pour peindre, c'est quelque chose dont il se sent très proche, lui-même étant autobiographe et essayant de scruter le plus loin en lui-même. Alors, il y a aussi une autre chose, je reviens un peu sur le masque, puisque tout ça, quand même, entre le sang, le sacré, le masque, tout ça, qui lie les deux hommes, c'est que Léris lui a envoyé un exemplaire de l'Afrique fantôme à Bacon. Bon, ils ont bien sûr partagé, on en parlera peut-être, la tauromachie, le miroir à la tauromachie, etc. Mais il lui offre un exemplaire de l'Afrique fantôme, et Bacon va entièrement le redessiner, découper les photos, découper le boli, là, le cono, découper plein d'autres images et va les retravailler avec des visages fantômes de Léris.
Pouvez-vous nous dire, Marie-Laure, en quelques mots, nous rappeler le contexte de l'Afrique fantôme?
Alors, l'Afrique fantôme, donc, c'est le récit de voyage que fait Michel Léris, donc, après, puisqu'il est secrétaire archiviste pendant la mission Dakar-Djibouti en 31-34, donc, la mission qui va de Dakar à Djibouti, menée par Marcel Griol. Et il écrit donc ce récit de voyage qui est à la fois un récit ethnographique, scientifique, et aussi un récit autobiographique dans lequel il critique les méthodes de collecte de l'ethnographie, dans lequel il critique beaucoup déjà à l'époque tout le système colonial, les administrateurs.
Et ça lui vaudra l'inimitié de Griol, de tous les grands ethnologues de l'époque qui ne comprendront pas.
Et en même
pas.
Temps, ça reste le livre mythique aujourd'hui pour les anthropologues, pour les artistes contemporains. Et c'est en ceci que Léris est intéressant non seulement pour cette époque, pour tout le XXe siècle, mais parce qu'il est de nouveau regardé par les contemporains. Je pense que c'est pour ça qu'on a insisté, est-ce qu'il y a des artistes comme Kaderatia, Caminaro, pourquoi une génération aujourd'hui se réintéresse à Léris?
Je vous pose la question, Kaderatia.
À Léris, je dirais plutôt culture autre, et inévitablement on tombe sur Léris.
Et il y a aussi ces questions de la colonisation, de la décolonisation.
De la colonisation. L'Afrique fantôme, comme le disait Marie-Laure, effectivement, c'est enfin un regard différent par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Il y a d'autres gens, en tout cas en photographie, comme Zagorski, le Polonais du Congo, qui va photographier les femmes Mangbetu et les visages scarifiés. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, avec Michel Léris, c'est qu'il est aussi, d'une certaine manière, au moment où il part à la mission Djibouti, il est en dissidence avec Paris aussi. Il utilise aussi ce moment pour fuir. Et là, je vais vous dire très sincèrement, à titre personnel, en tant qu'artiste, je me souviens très bien du voyage que j'ai fait au Congo-Brazzaville et qui a duré quasiment...
Deux ans, presque.
Plus de deux ans. Et ouais. En fait, j'étais presque dans la même position, en fait.
Et donc, Marie-Laure Bernadac, lorsque vous regardez ce portrait, que vous, on parlait tout à l'heure de la psychanalyse, c'est Kaderatia qui avait évoqué cela, Michel Léris a fait une psychanalyse sur les recommandations particulières, d'ailleurs, dans un contexte très particulier.
De bataille.
Qui lui a dit, donc, mon ami, il faut y aller. Il était témoin du mariage de bataille, hein, il faut rappeler ça.
Donc ils étaient très liés, ils font partie de la dissidence du surréalisme, et donc Léris est un peu en crise personnelle en 27, et Bataille lui conseille d'aller voir son propre psychanalyste, Adrien Borel, et cet Adrien Borel est un psychanalyste extrêmement intéressant, qui a aussi psychanalysé non seulement Bataille, Léris, mais Colette Peignot, donc Laure, la compagne et l'ami très cher aussi de Michel Léris. Et alors après, il a arrêté l'analyse, il a écrit un très beau livre dans les années 20 qui s'appelle Les rêveurs éveillés, et cet Adrien Borel est devenu acteur de cinéma. Et il tourne dans un film de Clouzot. Il a totalement abandonné l'analyse. On le retrouve dans un film de Clouzot. Je ne sais plus lequel, mais un film très connu. Donc, il a fait une analyse à ce moment-là. Et après, dans les années 57-58, après sa tentative de suicide, il voit un autre psychanalyste, justement. Bon, plus pour des raisons très thérapeutiques.
On peut dire que le couple de Bataille et sa femme était aussi ensuite très lié à la psychanalyse, puisque sa femme a ensuite épousé Lacan. Donc c'est un milieu quand même hallucinant quand on voit que c'est Kaiwa, Bataille, Lacan, le document sur toute l'incroyable fécondité autour de cela.
Ah oui, autour de Léris, c'est vrai, c'est toute une nouvelle traversée du XXe siècle, c'est une aventure très marginale en même temps, je pense. C'est pour ça qu'elle est très contemporaine et plus périphérique. Elle part quand même de Raymond Roussel. Hein,
oui, 1912, l'impression d'Afrique de Raymond Roussel.
Jusqu'à Bacon et Picasso, ouais. Mais en passant par l'Afrique, le jazz, la tauromachie, le collège de sociologie, la mission de la guerre de Djibouti, sans parler des Antilles, les rencontres avec Césaire, avec Glissant, avec Fanon. Il couvre vraiment l'histoire du XXe siècle qui nous intéresse aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça que cette exposition, elle va bien au-delà d'un portrait de Léris. Elle donne cette nouvelle traversée du XXe siècle.
Il faut se rendre compte aussi que, puisqu'on parle de Léris à propos de Bacon, que Bacon et Michel Léris avaient des admirations communes. On peut dire que Picasso était l'une d'entre elles, mais Giacometti également
qui est
était
le lien, d'ailleurs.
Et Masson. Voilà, ces trois personnages qui étaient clés pour l'ensemble. Kaderatia, sur ces amitiés d'artistes, ça a du sens, ça existe encore?
Ah oui. Je pense que c'est vraiment un tort de croire que le monde a vraiment changé, mais il fonctionne de la même manière.
Même à travers des générations différentes, j'ai entendu parler de votre amitié pour Jean-Jacques Lebel, par exemple.
Par exemple, oui, avec Jean-Jacques. C'est une vraie amitié productive, parce qu'en plus de s'apprécier humainement, à chaque fois que je quitte Jean-Jacques, je repars avec des histoires sublimes, j'enrichis mes propres connaissances. On a d'ailleurs entrepris de faire une sorte de dialogue autour de notre rapport à l'objet. Mais Ce qui est très intéressant, en parlant de Jean-Jacques justement, on parle beaucoup de jazz avec Jean-Jacques. Ce qui est très intéressant pour...
Avec Michel Léris aussi, on parle beaucoup de jazz.
Justement, par rapport à Michel Léris et par rapport à ce portrait, en fait, que je re-regardais tout à l'heure et qui, effectivement, rappelle ce masque. C'est que finalement, un objet d'art premier, avant d'être un objet d'art, est une philosophie, en fait. Oui. C'est ce que, justement, on a longtemps pas compris, et c'est ce que Léris, bien sûr, a immédiatement compris. Et la dimension psychanalytique, moi, je la trouve aussi très intéressante avec Léris, parce qu'elle est, justement, ce pont, vraiment cette jetée, en fait, sur l'immatérialité de la cosmogonie des cultures autres que des esprits très éclairés de l'époque vont, en tout cas, auxquels des esprits vont être très sensibles. Je pense que cet aspect en ce qui me concerne, de la psychanalyse et de la place qu'elle a prise dans la vie de Léris et de la façon dont effectivement on peut tirer de cette pensée qu'est Michel Léris tellement de disciplines différentes, c'est que à la croisée des chemins, vous avez donc la peinture de Bacon, l'art en train de se faire dans sa contemporanéité, mais aussi cet art lointain, les arts extra-occidentaux traditionnels, qui nous échappent, qui en tout cas ont complètement déjà à cette époque échappé, et que des esprits, donc lacaniens, qui donneront plus tard des gens comme Georges Devereux et ce qu'on a appelé l'éthno psychiatrie, l'éthno psychanalyse, vont, à mon avis, effleurer l'essence, encore une fois, philosophique de ce patrimoine, en fait, traditionnel. C'est un mot que je voulais dire qui me paraît très intéressant.
La cosmogonie ou le patrimoine traditionnel? Cosmogonie, c'est
le patrimoine traditionnel des cultures extra-occidentales,
oui.
Mais toute la cosmogonie qui
est autour et qui permet d'échapper autour, à fait, l'objet, d'aller bien voilà, au-delà de l'objet.
Oui.
Alors, je vous propose, Marie-Laure Bernadac, encore un mot, bien sûr.
Parce qu'on n'a pas dit que Michel Léris est quand même africaniste au Musée de l'Homme de 1934 à 1984. On oublie qu'il est vraiment au Musée de l'Homme et qu'il s'occupe des objets.
Écoutons à présent Michel Léris lui-même, interviewé par Paul Chavas en 1968, année bénie.
La procession telle que je l'ai vue rituellement pratiquée aboutit à une sorte de théâtre vécu, c'est-à-dire à l'idéal du théâtre et à ce que déjà, au fond, Artaud poursuivait avec son théâtre de la cruauté. Et ce que les gens plus jeunes qui maintenant s'intéressent au happening ou à ce qu'on appelle le théâtre total poursuivent de leur côté.
Il y a de fréquentes références au théâtre dans votre œuvre.
Assez fréquentes, surtout à l'opéra d'ailleurs, qui pour moi est une forme théâtrale. C'est déjà presque du théâtre total, pas tout à fait. Pour que le théâtre soit total, il faut que le spectateur soit impliqué dedans. Ce n'est pas le cas pour l'opéra. Mais c'est déjà un spectacle qui joue tout de même sur un clavier d'une extraordinaire extension. Et c'est en cela que ça m'intéresse très particulièrement. Je m'intéresse à l'opéra pas seulement comme mélomane, mais comme amateur de théâtre.
Et amateur de tout ce qui est plastique également, car vous êtes très sensible aux arts plastiques.
Oh ben, un peu comme tous les gens de mon époque. Picasso représente peut-être, pour les gens de mon époque, ce que Wagner a représenté il y a un siècle.
Nous entendions justement Michel Léris parler de ce dont parlait Marie-Laure Bernadac quelques instants auparavant, c'est-à-dire son travail ethnographique et particulièrement sur la possession qu'il comparait à l'instant au happening, avec effectivement toutes les données psychophysiologiques du happening et de la possession, et probablement ce qu'il appelait également par moment un théâtre vrai. Qu'est-ce que ça représente à votre avis, justement? Est-ce qu'il y a un lien possible entre cette analyse de la possession que fait Michel Léris et ce qui s'est passé dans les arts performatifs depuis les années 50 jusqu'à nos jours encore?
Ça, j'en suis convaincu. Mais même jusqu'à aujourd'hui, au-delà de... Je pense que l'individu humain, contraint à des règles sociales qui le tiennent en permanence, a besoin de se lâcher. C'est ce qui a donné aussi les rêves partis. Et toutes ces choses où on part à un moment donné dans des danses frénétiques où on oublie son corps. Je crois que ce qui est intéressant,
C'est plus cosmogonique dans le tsar éthiopien et peut-être plus psycho-récréationnel dans la rêve.
Parce qu'on est dans deux civilisations où déjà le rapport à l'écriture n'est pas le même. D'un côté, il existe, bon, en Éthiopie il existait, mais en tout cas en Afrique, dans l'ensemble, pas dans toute l'Afrique, mais dans l'ensemble de l'Afrique, l'histoire ne s'écrivait pas, elle se portait sur le corps, elle était sur les masques, etc. Donc on l'exprimait par des transes. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est qu'effectivement, finalement, il parle de possession, je crois qu'il est au-delà et en deçà du théâtre. Il est dans cette vérité, en fait.
Oui.
Une vérité dont parle, là aussi, je crois que je vais vous citer Marie-Laure Bernadac, Picasso, lorsqu'il est cité à travers la tête d'Obsidienne, lorsqu'il dit il dit, je crois, à Léopold Sédar Senghor, nous devons redevenir sauvages. Et Senghor lui répond, nous devons redevenir nègres.
Marie-Laure Bernadac, qu'est-ce que
ça
évoque ?
Oui, la possession traverse... Bon, c'est un intérêt graphique lié, magnifique, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est un sujet et un thème qui préoccupe beaucoup Léris, puisqu'après, il va retrouver avec Métro en Haïti les cérémonies vaudou, hein, donc c'est encore d'autres formes de transe. Et c'est à la fois du théâtre vrai, du théâtre vécu, mais il sait très bien que c'est faux. C'est ce qui le passionne. Donc, non seulement il y a la participation du spectateur, c'est qu'on est dedans. Donc, il n'y a pas de séparation entre le spectateur. On est acteur, on est pris par les personnes en
France. Marie-Laure, permettez-moi de dire peut-être à nos auditeurs qu'il faut se rendre compte que la pensée dominante ethnologique avant Métro et Léris était de considérer cela comme une pathologie, la transe, et pas du tout comme une exploration de soi.
Oui, bien sûr.
Je vous ai interrompu, pardon.
Non, mais cet intérêt, il est à la fois donc ethnographique, mais il est aussi personnel, parce que la grande quête que poursuit toujours Léris, c'est être soi et hors de soi. Et pour lui, l'état poétique est forcément un état de transe. C'est un désir de transe et sortir de lui. Colette Peignot et Laure aussi, pour elle, le sacré, c'est la transe en ça. Et le véritable état poétique, on est en transe. Donc c'est à la fois un intérêt pour toutes ces cérémonies qu'il a vues, qu'il a relatées un petit peu, que ce soit en Éthiopie ou les différents actes. Mais c'est pour lui un désir personnel. C'est qu'il ne peut exister que hors de lui, d'une certaine façon, hors de soi. Et donc ça, c'est quand même très intéressant parce que ça rejoint toujours une extrême subjectivité. Donc lui, la connaissance de lui et la connaissance de l'autre sur toutes les civilisations. Parce qu'il y a l'Afrique, mais après, donc, il s'intéresse aux Antilles. Hein, donc il va en Martinique, Guadeloupe et Haïti. Après, il va même en Chine, même si ça n'a rien à voir. En Orient, il y a toujours un désir, comme ça, d'ailleurs et d'autres, de sortir de son carcan d'Européen, de sortir de l'Occident pour explorer d'autres civilisations.
Alors, il faut se rendre compte qu'il y a un personnage qui flotte aussi autour de Léris, qui est un personnage clé par rapport à cette question de la transe, qui est Antonin Artaud.
Alors, il l'a connu au moment du surréalisme. Vous citiez De Véreux aussi. Alors, il se rend compte malheureusement qu'à un moment, Artaud va au-delà. Hein. Il y a plusieurs lettres qu'on a vues à Doucet où il se rend compte quand même de la folie d'Artaud. Même s'il l'admire, qu'il s'en rend très bien compte, il en parle dans ses lettres. Et De Véreux aussi, il en parle dans un moment quand il est directeur de la collection d'espèces humaines chez Gallimard. Il l'admire beaucoup, mais il le trouve aussi un petit peu spécial. Donc il y a des lettres où il se rend compte qu'il est un tout petit peu limite. Donc il était aussi ami avec Jean Rouch, hein, donc forcément, Musée de l'Homme, ils sont connus. Et puisqu'on parlait de 68, ils ont fait ensemble une grande exposition qui s'appelait Passage à l'âge d'homme, donc qui était une espèce de d'écho aux émeutes de 68, à la révolte étudiante. Et donc on parle de cette exposition dans notre exposition, donc je vous en dis pas plus, mais donc je crois que c'est une exposition très importante du Musée de l'Homme.
C'est important pour vous, Kader Attia, de participer à une exposition sur une personne qui a été tellement clivante, au fond, dans les années 45, même entre 30 et 45, que Michel Léris, ça complète votre position, je dirais presque politique.
Absolument, et esthétique et philosophique, qui fait partie, si vous voulez, des pensées qui sont toujours là, pas très loin, comme la pensée sauvage de Lévi-Strauss, etc. Il y a des, moi je crois que elles sont et elles restent, et j'ai même envie de dire elles deviennent de plus en plus contemporaines, en fait, ces pensées. Donc oui,
c'est une exposition qui vient à point nommé, j'ai l'impression, dans les grands débats que nous vivons et dans la société, dans le monde très troublé que nous vivons aujourd'hui. Peut-être vous pourriez me dire, Marie-Laure Bernadac, comment vous avez décidé d'inviter Kader Attia dans cette exposition, justement, pourquoi, qu'est-ce que vous regardiez dans son travail qui vous intéressait?
Bon, d'abord, je connais Kader depuis un moment et j'aime beaucoup son travail. On avait déjà eu une aventure sûr sur les désastres de la guerre, puisque c'est aussi un sujet qui lui tient à cœur. Et j'ai tout de suite pensé à lui pour Léris. Pour moi, c'était évident que Léris et l'Afrique fantôme faisaient partie de ses référents, de son panthéon intellectuel. J'avais vu aussi ces... on pourrait parler de l'œuvre qu'il va présenter, qui sont ces masques miroirs. Et miroir est un terme qu'emploie très très souvent Léris. Hein. Les artistes sont des constructeurs de miroirs. Le miroir de la tauromachie et ce miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Donc là, je pense que Kader en parlera mieux que moi, mais ces masques miroirs que j'ai vus, pour moi, c'est évident qu'ils devaient figurer en même temps que les masques d'Ogon, que Léris a rapporté de la mission, que celui qu'il avait dans son bureau, très proche, donc au Musée de l'Homme, qu'on avait une espèce de face à face entre son œuvre et toute l'histoire du Musée de l'Homme.
Kader Attia évoquait la question du miroir, justement, en décrivant le tableau tout à l'heure, et en fait, c'est un miroir qui semble avoir, dites-moi ce que vous en pensez, Kader Attia, un jeu complexe, puisque c'est un miroir de ce qui est représenté, Michel Léris qui s'explore à travers ce miroir, c'est un miroir de l'artiste lui-même qui le fait, mais c'est aussi, et Michel Léris insiste beaucoup là-dessus, sur la présence de l'œuvre pour le regardeur, c'est un miroir pour le regardeur, c'est-à-dire qu'on se voit dans le portrait de Michel Léris en tant qu'homme.
Ah ben oui, bon, moi je crois que toutes les œuvres sont le miroir du regardeur d'une certaine manière, et que qu'elles soient d'ailleurs des œuvres d'art contemporain créées ou au XXe siècle, ou des objets traditionnels africains, pour la simple et bonne raison que on passe son temps à les accumuler, les institutions à les collecter, les collectionneurs à collectionner les petites cuillères, les masques africains, les peintures, etc.
Mais au final, c'est pas un miroir narcissique dont on parle là, c'est un miroir explorateur.
Oui, mais ce que juste pour terminer, je pense que ce sont surtout les œuvres qui nous collectent.
Ah, je comprends ce que vous dites. C'était ça la chute que je veux dire. Bien vu, oui.
Et donc, si vous voulez, l'effet de miroir existe vraiment. C'est-à-dire que l'œuvre vous regarde aussi, mais c'est parce qu'elle vous regarde que vous vous voyez dedans. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce tableau, c'est que toutes les formes sont soit de trois quarts ou légèrement de trois quarts, mais s'il y a une chose qui vous fait face, c'est le regard, l'œil. Puis c'est un œil. Tout à l'heure, il y avait quelque chose dont parlait Marie-Laure qui m'a paru très important, dont on a parlé, c'était cette idée de possession, en fait. Et comment, effectivement, Michel Léris, qui a essayé deux psychanalyses, plus cette tentative de suicide dans les années 50, c'est ça ?
57. Oui.
Est confronté à un moment donné à ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Je crois que ce qui vraiment me semble très intéressant dans ce dont il parle à travers le théâtre d'Antonin Artaud, le théâtre de la cruauté ou la performance dont on a passé cette idée de s'extérioriser, de pas seulement d'une transgression, mais de devenir sauvage, en fait. C'est, à mon sens, peut-être un des éléments les plus fondamentaux de la pensée psychanalytique du XXe siècle et, en fait, intellectuelle. À savoir que la modernité, la psychanalyse est une des dernières philosophies inventées par la modernité. Elle arrive à la fin avec les sciences sociales, les sciences humaines. Elle va, à un moment donné, et Léris le voit dans l'Afrique fantôme, se heurter, pas seulement à une cosmogonie, mais à une abysse inconnue, insaisissable, immatérielle, que sont les cultures traditionnelles, et qui vivent au quotidien avec les ancêtres. Et je crois que ce qui est très intéressant, dans son regard sur le théâtre, dans son regard sur la possession, c'est de le mettre aussi en relation avec son regard sur la psychanalyse, en tout cas la manière dont il va justement à un moment donné peut-être, hein, je suppose, sentir comme beaucoup de psychanalystes, Freud le premier puisqu'il démarre son premier essai avec Totem Tabou, un travail sur les cultures extra-occidentales traditionnelles, sentir cette limite qu'a cette science qui semble être absolue face à la magie, à l'inconnu, à la transe, à la possession.
Au cœur des ténèbres.
Oui, parce qu'il y a chez Léris aussi une passion pour, évidemment, pour Conrad. Je vous propose d'écouter la voix de Francis Bacon, suivie de la lecture d'un extrait du Bacon hors la loi rédigé par Léris en 89, et nous reviendrons ensuite sur ces questions passionnantes que vous avez soulevées, Kader Attia.
J'emploie les photos de temps en temps, mais je les emploie quand on emploie un dictionnaire. Mais comme je veux faire quelque chose qui n'est pas du tout une illustration, moi maintenant, j'ai tant à absorber, je suis comme une sorte de bétonneuse, alors tout passe par cette machine et de temps en temps, les images sortent. Et petit à petit, j'ai trouvé mon façon de faire la peinture à moi. En tout cas, pour moi, je trouve les peintres que j'admire ont toujours été des grands voleurs. Ils ont pris toujours ce qu'ils voulaient des autres.
Étranger à l'académisme par sa formation, celle de quelqu'un qui, devenu peintre après avoir été quelque temps dessinateur d'ameublement, a tout appris par lui-même, Francis Bacon n'est assurément pas un naïf appliqué à élaborer des chefs-d'œuvre artisanaux, mais, au sens étymologique, un autodidacte. Et si l'on en juge par l'originalité abrupte de ce qu'il a produit, un franc-tireur qui, certes, sait rendre hommage à ceux qu'il tient pour de grands maîtres, mais ne se rattache à aucune école. L'art de Francis Bacon, totalement amoral, n'est chargé d'aucun message et ne prétend ni commenter les malheurs du temps, ni refléter la nature intime des choses. Que l'image sortie de sa tête et de ses mains affirme énergiquement sa présence. Un point, c'est tout. Francis Bacon, parlant de sa vie privée, ne cache pas qu'il préfère à toute autre compagnie celle des fripons et des truands. Or, dans son activité d'artiste, il semble effectivement perpétrer sur le réel des sortes de hold-up ou de piraterie. Pour que, sur la toile, le réel soit traduit de façon poignante, ne faut-il pas que le peintre, procédant avec l'audace d'un voleur de feu dont le butin ne saurait être acquis par des voies régulières, empoigne et en quelque façon viole ce qu'il veut représenter ? Michel Léris, Bacon, le hors-la-loi, 1989.
Marie-Laure Bernadac, les grands artistes sont des mauvais garçons.
Sont des voyous.
Hein, et Francis Bacon a fait attention à lui-même se donner une image excessive. Il y a un texte de Michel Léris où il parle de la façon dont il se distingue de Marcel Duchamp qui, lui, joue aux échecs. On sait que Francis Bacon adorait jouer à la roulette, mais pas avec une martingale, en toute liberté pour être à côté du désastre, de l'échec, de...
Oui, c'est ça qui est très émouvant et touchant chez Léris, c'est qu'il est passionné par le personnage de Bacon aussi. Il y a une vraie amitié, une vraie complicité. Il y a beaucoup de beuverie aussi. Hein. Il partage, quand il se rend compte, moult whisky et beuverie et alcool. Et Léris a toujours voulu sortir de son rôle de petit bourgeois du 16e. Donc, dès qu'il peut fréquenter des personnages...
Qu'il l'était Bacon, littéralement, il habitait dans
qu'il
le 16e.
Bon, après, il est allé aux Grands Augustins. Et ce qu'on évoquait, la très belle citation de Léris au FS, c'est toujours la brutalité du fait. On est dans la brutalité du fait de peinture et de représentation. Et ça, je crois que ça fascinait Léris. Il a trouvé une espèce de paroxysme de tout ce qu'il cherchait dans la peinture avec Léris, qui est plus jeune que lui. En plus, à l'époque où il le rencontre, donc grâce à une exposition de Giacometti qui fait le lien, donc c'est une espèce de belle transmission, bel héritage. À part Picasso, tous ses autres amis, où il ne les voit plus, où ils sont morts. Donc Bacon, qui est plus jeune, tout d'un coup, représente la synthèse de tout ce à quoi il aspire.
Il se rencontre en 66 dans 65, une exposition. 65
à la Londres, grâce à David Sylvester. Donc Léris, qui adore Giacometti, va voir cette exposition. Et alors, en plus, justement, un an après, Giacometti meurt, qui était très très proche de... Et il lui laisse comme cadeau, on pourrait dire, Bacon. Quoi. Du coup, ça fait une espèce de lien Bacon-Giacometti. Beau triangle.
Kader Attia, l'artiste, voleur, mauvais garçon, ça vous ressemble ?
Passeur. Bon, il y a une mythologie... Hein. De l'artiste voleur qui, à mon avis, avec Picasso, pas seulement d'ailleurs, Caravage aussi.
Bien sûr.
Donc voilà, ça existe. Maintenant, passeur, j'ai envie de dire. Et je trouve que cet exemple de transition de Giacometti qui s'en va et qui lui laisse Bacon, c'est très beau parce que, justement, Giacometti était vraiment obsédé par cette idée que finalement, il travaille sur des œuvres qui n'avaient pas de début et pas de fin. C'est comme ça qu'il le dit. Cette idée d'intemporalité, de complètement presque quantique en fait. Hein, l'univers n'a pas d'âge, l'univers n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Je trouve ça très intéressant justement, Giacometti définissant ses œuvres comme ça. Et ce côté transmission me paraît vraiment fondamental en fait. Transmission de savoir, transmission d'amitié, transmission de... Voilà. Alors, c'est peut-être plus une manière plus élégante de dire voleur.
Mais alors, juste, je pense, j'ai un souvenir de visite, c'était après sa mort, malheureusement, de l'atelier de Bacon. qui était plein à peu près à mi-cuisse de milliers de photos, de bouts de peinture, de photos, de reproductions de photographies, de reproductions de tableaux de toutes les époques, de la Renaissance, etc., toujours retouchés, au point que chaque fragment donnait l'impression d'être une œuvre. J'ai regretté de ne pas en prendre une poignée, mais c'était vraiment possible.
Oui, c'est comme ça qu'on a pu récupérer, grâce à Barry Joule, donc un photographe, cet exemplaire de l'Afrique fantôme. Mais on a vu aussi que Picasso lui envoyait plein d'images, plein de photos de tauromachie, puisqu'il avait cette espèce de passion sur la reine, la tauromachie.
Là, vous parlez de la relation Picasso-Bacon.
Bacon, absolument. Il lui a envoyé des livres.
Racontez-nous, il y avait une relation directe, ils se sont connus.
Ah bah Picasso, Bacon, non, là je parlais de Léris lui a envoyé des livres et qu'il a, mais parce que c'était par contre des photos que lui envoyait Picasso.
C'est
donc,
ça.
Parce que le lien tauromachique est entre Picasso et Léris, et donc Léris a initié, on pourrait dire,
Bacon,
ce peintre anglais à la tauromachie, puisqu'il a finalement illustré.
Au point que le cercle de la reine devienne un
exactement.
Motif récurrent de tout son travail.
La reine est centrale chez Bacon, absolument.
Alors, ce qui est très extraordinaire chez Bacon, c'est la façon dont la reine se transforme en la bonde, quasiment, d'un lavabo au cœur du tableau, par lequel l'humain s'évacue de la façon la plus tragique. L'humain, le vomi, tout.
Oui, c'est tragique. C'est vrai que les tableaux sont tragiques, hein, beaucoup plus que Picasso, d'une certaine façon.
Parce que tout à l'heure, on entendait Léris dire, mais il ne travaille pas sur les malheurs de la société. On a quand même l'impression que c'est au centre du désastre, toujours, non?
Oui, si, si.
Qu'est-ce que vous en pensez, Kaderadia?
Moi, je pense qu'on est vraiment dans une peinture qui est de son temps et qui fait la synthèse vraiment entre l'échec absolu de la modernité, la postmodernité naissante, et qui, somme toute, pour des gens comme Foucault, Lyotard ou Deleuze, sont déjà désillusionnés, en fait, par ce qui arrive. Puisque le propre des grands penseurs, de Nietzsche à Foucault, c'est d'avoir cette vision au-delà de l'horizon. Et je ressens très fortement ça dans le travail de Bacon. C'est pour ça que Bacon est toujours l'œuvre de Bacon jusqu'à aujourd'hui est une œuvre qui frappe encore.
Je pense qu'elle a gardé son inconfort très très violemment, et c'est pas. On est loin d'être, quels que soient les délires du marché, on est loin d'être dans des projets et des produits esthétiques. On est vraiment
absolument
dans des interrogations sur ce que nous sommes à chaque fois.
C'est très intéressant comme remarque, parce que c'est pas une œuvre qui a été justement polissée par le temps, comme le peut le faire la nostalgie. Elle reste encore parfois insoutenable.
Il y a d'autres œuvres de Francis Bacon dans votre exposition.
Bien sûr, il y a deux portraits, puisqu'ils ont été donnés au Centre Pompidou dans le cadre de la donation Léris, et on a cinq autres très grands portraits.
Et donc, dans les artistes contemporains, il y a d'autres artistes dont vous parliez tout à l'heure.
Alors, il y a Camille Henrot,
Alberola peut-être.
Jean-Michel Alberola, qui est peut-être le premier en 94 à avoir fait beaucoup de portraits de Léris fantôme. Et donc, on montre cet ensemble de portraits, donc fantôme de Léris.
Portrait
clouté, oui, avec des attaches parisiennes, comme il dit, et des petits tickets parisiens, mais avec l'œil, la corne. Donc il y a cette série de très beaux portraits. Là aussi, on retrouve une autre façon de voir la tête de Michel Léris, mais à la Alberola, donc très évanescent, très fantomatique. Michel Barcelo, non pas parce qu'il a été lié, mais parce que c'est le seul qui a vraiment été sur les traces des Dogons, donc de Gogoli. Donc il a fait un petit tableau, donc de Marcel Griot, la Sanga, donc il a vraiment aussi suivi ce chemin donc des Dogons. Et Marcel Miracle aussi, qui nous a fait quelques dessins. Et un artiste qui s'appelle Mathieu Abonin, qui fait un film sur les
qui avait fait un travail à partir des instructions de Michel Léris sur la collecte.
Dans l'expo Roussel, exactement.
Voilà, en fait, il me soit me souvenir Mathieu que Michel Léris avait rédigé des instructions pour les colons de
exactement.
L'époque, pour savoir comment ramener des objets
les instructions
avec
pour
une certaine délicatesse, peut-être. qu'est-ce que ça
racontait? C'est plutôt de l'inventaire archiviste, c'est plutôt des méthodes. C'est les fameuses méthodes de fiches. Méthode de fiche qui va être très importante, parce qu'il va s'en resservir pour la règle du jeu, pour sa propre autobiographie. À partir du moment où on fiche comme ça un informateur, les rites de circoncision, enfin tout ce qu'il essaie de. Ce sur quoi il travaille, après il s'en sert sur lui-même, ces fameuses fiches, ces inventaires.
Je voudrais que vous reveniez, Kaderadia, un petit peu, parce que sur la viande dont vous avez parlé au début de l'émission de façon très impressionnante, parce que c'est aussi quelque chose qui parcourt votre travail, non pas la viande, mais je pense à cet aspect insoutenable de la blessure. Je ne pense pas aux derniers travaux que vous avez faits, mais plutôt à des travaux assez anciens dans lesquels il y avait une menace. Je pense à ces toboggans que vous aviez faits avec des lames.
Ah oui.
Tout ce travail, pourquoi cette menace-là? Pourquoi se sentir toujours toujours en danger. Qu'est-ce que c'est ce sens du danger? C'est la corne du taureau qui doit passer près de vous, c'est quoi?
Non, je pense que d'abord, bon, les œuvres arrivent après un long chemin qui parfois nous qu'on ne contrôle pas tout le temps, et je trouve que c'est d'ailleurs important. Mais si vous voulez, pour parler d'une œuvre aussi ancienne,
oui, c'est ancien, pardon,
qui montrait justement donc ce toboggan d'enfant avec ses lames et qui faisait référence à l'excision en fait. Il y a des questions. Il y a un livre très très beau de Bruno Bettelheim qui s'appelle Les blessures symboliques. Et il y a des questions qui m'ont toujours fasciné en fait sur la si on avait à voir le monde à travers une sorte de bipolarité entre la tradition et la modernité, comment l'Occident européen en tout cas moderne a toujours été obsédé par l'effacement absolu de la blessure, par l'idée de revenir à l'état original du corps blessé, de l'objet cassé, de après à un niveau même métaphorique immatériel, la psychanalyse, la réparation des traumatismes, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai compris à travers et par la chance qui est celle, enfin qui appartient à mon histoire, d'aller de venir et d'aller entre l'Algérie et la France, comment de chaque côté de la Méditerranée, le rapport justement à la viande, le rapport au sang, le rapport au sacrifice. Par exemple, hein, on mange, on égorge un poulet, on ne va pas l'acheter sous cellophane ou on ne l'assomme pas, comme on fait dans les fermes, comme j'ai vu justement quand j'étais enfant dans les fermes bretonnes où mes parents m'envoyaient aussi. J'ai toujours été fasciné par cette gestion différente de la blessure et donc, petit à petit, de la façon dont, de la réparation en fait. Donc,
vous voulez dire que ça cache la blessure, c'est se déresponsabiliser?
D'une certaine manière, c'est surtout, oui absolument, mais c'est aussi, au départ, ça m'a permis de voir vraiment qu'il y avait pas une différence entre les races, mais définitivement une différence, une sorte de bipolarité entre la tradition et la modernité. Même si on peut considérer qu'il n'y a pas eu de rupture vraiment et que c'est un grand problème, comme Bruno Latour, nous n'avons jamais été modernes, et que une thèse à laquelle j'aspire beaucoup, il est clair que la gestion de la blessure dans les cultures extra-occidentales traditionnelles, la scarification, les mutilations auto-intentionnelles, Bettelheim en parle très bien dans son livre, a pour but de maintenir la cicatrice tout au long de la vie du groupe. Elle est visible. La cicatrice devient une forme même esthétique. Tandis que dans les cultures occidentales modernes, le but premier, c'est d'effacer à tout prix cette blessure, de la faire disparaître.
Marie-Laure, dernier mot.
Je suis tout à fait d'accord et c'est très intéressant parce que bon, non seulement, je rappelle la phrase de Léris, la majesté que le sang confère à toute chose. Hein, donc pour lui, le sang, c'est le sacré, c'est le sacrifice très important. Et la blessure chez lui équivaut, sur le plan symbolique, à la fêlure. Pour lui, il n'y a d'artiste, il n'y a de création poétique qu'avec une fêlure et dans un état de crise. Et d'ailleurs, quand même, il y aura une blessure plus que symbolique, puisque quand il va, après son suicide, il a une trachéotomie et il garde une trace sur le cou qu'il cachera. Et en fait, il est très fier d'avoir enfin une vraie marque, une marque physique, parce que la fêlure était beaucoup plus métaphorique, hein, la fêlure interne et mentale, alors que finalement, après son suicide, après ce suicide raté, comme un il garde une trace autour du cou. Donc, comme il avait été obsédé par la castration, la décapitation, avec Cranach, finalement, il arrive à avoir sa blessure.
Tout ça rejoint les paroles de Bataille qui faisaient de l'abattoir le lieu le plus sacré à l'intérieur d'une ville. Donc, on voit que, avec ce portrait de Michel Léris par Francis Bacon, nous sommes au cœur de l'essentiel. Merci Kader Attia. Merci beaucoup Marie-Laure Bernadac.
Merci à vous.
Merci.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, nous avons regardé et commenté un tableau de Francis Bacon, le portrait de Michel Léris, daté de 1976 et qui appartient aux magnifiques collections du Centre Pompidou à Paris. Je vous rappelle que très bientôt, vous pourrez admirer cette œuvre au sein de l'exposition Léris & Co. au Centre Pompidou-Metz du 3 avril jusqu'au 14 septembre. Ça va être passionnant. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attachée d'émission, Sylvia Favre. Merci Sylvia. Lecture des textes, quelle belle voix. Quentin Bayot. À la technique, Pierrick Charles. Réalisation, Franck Lilin.